Ben, tenez, hop, tout de suite, on va démarrer par autre chose. C'est prêt? Oui? Non? Personne n'a reconnu? Ça vous dit rien? Ah, je pensais que vous auriez reconnu. Parce que c'est quand même célébrissime, ça. C'était un des grands morceaux, un des grands tubes de la musique concrète. Peut-être on va écouter un deuxième bout avant de vous dire ce que c'est. Un deuxième bout qui vous aidera peut-être plus à reconnaître encore. Pour, comme ça, pour vous deviner, ça date de 1964. Donc, pas d'ordinateur, travail sur bande magnétique, montage, mixage et tout ça, quoi. On écoute un deuxième extrait. On va prendre de... Ah, mais d'ailleurs, je me suis trompé, je vous ai fait écouter qu'un seul canal. Je suis désolé, j'aurais dû vous faire entendre les deux canaux. Et j'ai pas vu que c'était des fichiers Pro Tools, donc je vais peut-être.
C'est pour ça qu'on n'a pas reconnu, en fait.
Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas reconnu. On va faire une new session. Ça va être du 16 bits, oui, 24. Concrètement, on va créer une session. Dans quoi? Dans là, par. Où est-ce que j'ai mis ça? Session. C'est pas là. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont reconnu des choses dans cette musique?
Un saxophone.
Ouais. D'accord. Pourquoi pas?
Non, c'est un saxophone.
La salle ou il est fait
ça et ça. Voilà. Anne. Voilà. Alors on écoute un deuxième extrait. Vous avez donc un saxophone. Qu'est-ce qu'a reconnu un saxophone? Simon. Et les autres, il y a reconnu de spécial. Bon, alors on écoute un deuxième extrait. On va prendre celui-là.
Thank you.
la tournée, mais la plan B.
On va voir si ça remet en marche.
Alors, vous avez reconnu des choses ?
Une pierre.
Bah oui. C'est quoi là ?
C'est une variation pour des portes.
Pour une porte.
Pour une porte et un soupir.
Ouais.
Une variation pour une porte et un soupir. C'est un tube de la musique acousmatique en effet. Ouais.
Je vais replanter. Alors,
comment vous entendez ça? Je veux dire par là, est-ce que vous écoutez autre chose qu'une porte qui grince ou pas?
Bah, à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était des portes,
ouais.
J'entendais des portes et un mec un peu bizarre qui faisait des trucs avec la porte. Quoi.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a fait de fait de se rendre compte de ça d'un seul coup? Est-ce que ça a changé ton écoute?
Ouais. Ouais. C'est une écoute attentive pour savoir ce que ça faisait, une écoute un peu plus amusée. Sur, j'imaginais un mec qui avait bu un coup de trop un soir et qui se disait, oh, c'est marrant, c'est du bleu comme ça. Voilà, c'est mon expérience du truc. Hein.
En même temps, à partir du moment où tu as compris que c'était une porte, tu cesses de te questionner.
Bah oui, je cesse de me questionner, c'est pour ça que j'imagine des trucs.
Ouais, donc du coup.
La blague.
Du coup, t'as une. Oui, d'accord. Du coup, t'as une attention sur tout ce genre de gestes un peu déjantés que ce mec qui a trop bu ferait.
Ouais.
C'est-à-dire, tu te mets à écouter comment il bouge, lui.
Bah, c'est pas quelque chose de péjoratif.
Oui, non, j'ai bien compris. Mais ce que tu te mets à écouter, c'est comment il bouge, lui, avec son ivresse, comment il répète les mêmes gestes, comment il insiste, comment il prolonge certaines choses. Bref, tu te mets à écouter le phrasé, quoi, en fait. Alors, avec une image derrière, qui est celle du geste, qui est celle d'un geste possible. Est-il complètement crédible ou est-ce qu'il y a des moments où ça bascule vers une forme d'artificialité?
Il y a un changement de hauteur un peu
bizarre.
Ça change beaucoup trop le son.
Oui. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres petits détails qui font qu'à certains moments, on se dit « Ouh là là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait crédible, là ».
On peut penser à un instrument avant, enfin trompette, ce genre de truc. Oui.
Il insiste. très bien.
Bah, oui, quand on ne sait pas jouer d'un trombone ou quoi, bah, ça fait.
Oui.
Là, ça faisait un peu ça.
Oui, par moment, ça fait
un
ça.
Un mec
oui.
bourré qui essaye un trombone.
Voilà. Oui. En même temps, là, on touche du doigt on pourrait dire une anamorphose célébrissime de toute l'écoute d'une manière générale, qui est celle qui nous fait passer du rythme à l'itération, au grain et à la fréquence. Je m'explique. Si je fais ça, ça, c'est rythmique. C'est rythmique, irrégulier. Régulier. Maintenant, si je fais ça, fatigant à faire, c'est ce que je vais faire appel itératif. Un son itératif, un son entretenu de manière itérative, c'est un son dont l'entretien est constitué des répétitions serrées, plus ou moins régulières, d'impact. Tout ça, c'est itératif. Si je le fais plus vite, on a quelque chose qu'on appelle un grain. Si c'est un grain régulier, c'est un grain mécanique. Si je fais, c'est un grain disposé de manière aléatoire, microscopiquement. Vous suivez? Maintenant, si c'est ça, si j'étais assez doué, j'arrivais à le faire 440 fois par seconde. Qu'est-ce que vous entendriez? Un la, 440 Hz, absolument. Or, pour un physicien, pour un scientifique, il n'y a qu'une seule chose qui change, c'est le temps. Etc. Hein? Donc, pour un physicien, il n'y a qu'une seule valeur qui change, c'est la durée qui sépare chaque impact, le temps. Pour un musicien, on traverse quatre catégories qui, artistiquement, sont fort différentes. Le rythme, l'itération, qui est perçue non pas comme quand vous avez un son itératif, vous n'écoutez pas chaque grain, c'est comme l'allure. Vous écoutez un principe général, Vous comprenez ce que je veux dire? Vous écoutez un son qui a une qualité d'animation telle que, par exemple, je crois qu'il y a un radiateur là.
Ah oui, il y a pas mal. C'est pas les bons radiateurs, ça. Si, il y a une grille à l'intérieur.
Oui, bah non.
Si, voilà, c'est ici.
Là, ça, vous n'écoutez pas chacun. Mm-hmm. Vous entendez un principe général d'animation du son d'entretien.
Et donc, c'est un son itératif. Le grain, ça, c'est un son qui a un grain par rapport à qui n'en a pas. Il y a un grain. Et donc, c'est une autre catégorie musicale. Et puis, la fréquence, la hauteur, qui est carrément, pour le coup, une autre catégorie. Et donc, cette musique-là, avec les grincements de porte, vous fait passer de moments où on a carrément des itérations à des moments où on a des grains, et à des moments où ça se met à chanter, d'où, évidemment, les ressemblances avec certains instruments avant, parce qu'au fond, un instrument avant fonctionne exactement comme ça. Hein, un basson, par exemple, dans le grave, vous entendez les grains du basson. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait avoir une dimension un peu,
comment dirais-je, je vais le remettre un tout petit bout comme il a planté, je vais recharger les sons. Voilà, ils sont là, ils sont faits. Non, ils ne sont pas faits, donc il faut que je leur fasse, c'était lequel c'était. Ça s'appelait celui qu'on a écouté. Le premier qu'on a écouté tout à l'heure, c'était Geste, et celui qu'on vient d'entendre, c'était Éveil. On va écouter un tout petit bout et je m'arrêterai à certains endroits, peut-être je prends le début là. Des différentes formes liées à ces gestes,
si on écoute des gestes, on pourrait éventuellement écouter autrement, hein, écouter juste des formes, des parcours, donc une espèce de fantaisie mélodique, c'est quasi mélodique ça. Hein.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des enchaînements qui sont un tout petit peu trop rapides pour être naturels? Je vous remets. Là. Là. Par exemple, vous voyez, ici.
Vous savez, comme dans ces émissions de radio, où, pour resserrer, vous avez une personne qui parle, et puis il y a quelque chose dans les mots qui s'enchaîne un peu trop vite. Ça se fait beaucoup maintenant dans les radios jeunes. Ça c'est devenu une mode un peu. Ça vous dit quelque chose? Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme radio où on entend ça? J'ai l'impression que des choses comme le move, par exemple, on entend des gens qui parlent, et puis hop, la phrase suivante, elle arrive un peu trop vite. Elle est recoupée, et c'est devenu un style, presque une manière de travailler les interviews. À l'origine, ça vient du fait que les émissions de radio étaient dans des contraintes de temps telles qu'on était obligé de couper. Donc on avait des enchaînements un peu trop rapides. Et c'est devenu une manière assez jolie d'enchaîner. Dans les chansons aussi, on entend ça quelquefois. Dans des chansons un peu travaillées sur le support, on entend ça. Et là, il y a un peu de ça, de cet ordre-là, je trouve. Vous voyez, on voit bien que le montage, il y a quelque chose qui enchaîne les phrases de manière un peu trop rapide. Voilà. Encore un peu plus loin aussi. C'était toi qui parlais de langage tout à l'heure. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du langage, quoi. Il y a des petites unités, un peu comme des mots, très courtes, certaines, comme des phonèmes, comme des conjonctions. Hein, que, et, où est donc ornica, c'est ça? Mais où est donc ornica? Et puis il y a des mots, il y a des phrases plus composées. Et puis ça chante aussi, hein, du coup ça n'arrête pas de monter, de descendre. Ça définit des trajectoires. On peut appeler des trajectoires mélodiques. Si on généralise l'idée de mélodie à tout mouvement dans le champ des hauteurs, si vous voulez, on peut les chanter, on pourrait les chanter presque, on pourrait les imiter. Et puis c'est drôle, non? Vous ne trouvez pas?
Ah oui, c'est drôle.
Une espèce d'humour. Et en même temps, c'est assez abstrait. On voit bien qu'il y a des formes qui se répètent. Vous avez peut-être repéré, il y a des formes qui se varient, qui sont répétées, qui sont variées. Certaines semblent être étirées, alors que ça n'existait pas à l'époque, les étirements, comme ça. Hein, c'était des traficotages. Aujourd'hui, on peut étirer le son. On a des principes qui permettent de le faire. Et puis quoi, ben je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon.
Ça, c'est passionnant, cette idée de liaison avec la voix qui finalement partirait toujours un peu trop vite, quoi. Hein, qui,
oui.
C'est ça qui partirait. Parce que je pense au cinéma, je suis toujours très en relation avec l'image son, et de manière quasi contemporaine, ou alors là, je pense à La guerre est finie d'Alain René, qui est vraiment le film avec un système de montage où justement l'image est accédée. Alain René était sa première formation, c'était être monteur. À l'IDEC, il a un prix de montage. Et donc, justement, dans La guerre est finie, il y a toujours cette manière où l'image s'accélère, mais pas au sens où on accélérerait sa vitesse, pardon, mais tout simplement par des effets de chaos dans le montage. Quoi. On enlève une image et l'image est toujours en déséquilibre en avant, d'une certaine façon. Et ce système a été repris par Arnaud Desplechin dans Rois et Reines, où on a également cette espèce de déséquilibre en avant de l'image. Et il faudrait voir La guerre est finie de René, parce qu'on ne doit pas être très loin en termes d'années. Ça doit être tout début 60 de la pièce de Pierre-Henri. Ça, c'est vraiment intéressant, cette idée que cette artificialité crée un faux sentiment de vitesse en avant.
Quoi. Oui, oui.
Ça, c'est passionnant.
Comme si on se catapultait un tout petit peu à l'inverse, un tout petit peu en avance. Et je trouve l'analogie avec le cinéma est intéressante parce que si on l'oppose au théâtre, on retrouve un rapport entre la musique instrumentale et la live et la musique sur support. Au théâtre, vous ne pouvez pas fabriquer ces accélérations. Évidemment, c'est pas possible parce qu'on est dans le direct. Pour le coup, il y a une forme d'artificialité, mais elle n'est pas du tout la même. Tandis qu'au cinéma, c'est un art de support. Comme tous les arts de support, on peut agir sur le temps, on peut accélérer, on peut basculer plus vite dans les enchaînements. Et ce qu'il y a d'intéressant sans doute dans cette pièce, c'est qu'elle vous fait croire que c'est du théâtre. Elle vous fait croire, elle vous donne toute la sensation que c'est du théâtre, comme s'il y avait quelqu'un là, devant vous, qui bougeait la porte et rien d'autre. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est intéressant cette idée que dans les transformations, que ce soit les transformations de la matière ou les transformations de la forme par montage, mixage ou autre processus, on peut déterminer deux grandes orientations. La transformation aveugle et transparente. L'auditeur entend un nouveau matériau, point. Il ne sait pas qu'il a été transformé. Et puis il y a la transformation opération. Opération, ça veut dire que ça devient opératoire. Ça veut dire que ça fait partie du discours musical. L'auditeur entend un élément et entend sa transformation et se dit, tiens, il a été transformé, il est capable de faire la comparaison. Dans un cas, c'est juste pour fabriquer un nouveau matériau. Dans l'autre, c'est un procédé d'écriture, si vous voulez. C'est une intention compositionnelle. Et donc là, on est un peu dans un intermédiaire entre les deux. Parce que quelque part, on pourrait croire que c'est comme si c'était fait en direct, mais en même temps, on voit bien qu'à plein d'égards, ça ne peut pas être fait en direct. Et par moments, par des petits points, comme disait Alexandre, ces moments d'accélération, de trous dans le réel du temps, en quelque sorte, qui font que ça enchaîne trop vite sur les choses qui suivent. Quoi.
Hein? C'est tout le rapport entre le réel et l'artificialité.
Oui, bien sûr.
Comment même rendre réel par l'artificialité.
Oui, bien sûr.
Quelque part,
ça me fait penser à du cinéma qui présenterait des images où c'est du théâtre filmé. Ça pourrait être du théâtre filmé. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui bouge la porte devant vous. Sauf que, d'une certaine façon, en tant que musicien, moi j'entends... très vite j'oublie la porte en quelque sorte. Enfin, c'est assez ambigu parce que je l'oublie et je ne l'oublie pas. Ça, c'est à titre strictement personnel. En tant que musicien, je l'oublie et je ne l'oublie pas. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'il y a des moments où je ne l'oublie pas parce que ça me fait rire. Et ça me fait rire et je me dis, ah oui, elle a une drôle de manière de grincer cette porte. Au début, elle est enrouée, par exemple. Regardez, au tout début, elle a un chat dans la gorge. Rappelle-toi la gorge, mon bonhomme. Ça va aller mieux. Elle a un chat dans la gorge au début, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a des moments, donc ça me fait rire, et puis il y a des moments où je suis uniquement en train d'écouter le plaisir abstrait des mouvements mélodiques, des choses qui semblent forcées, avec une résistance. Les moments où ça ne force plus, où ça s'élève, ça s'enchaîne, ça devient un geste très facile, très léger. Les moments où ça devient des espèces de gestes un peu méchants aussi. Hein.
Il y a des gestes méchants là-dedans. Il y a des gestes qui font presque mal, qui sont douloureux. Je pense à ce geste-là, je vais essayer de le retrouver. Je crois que c'est ici, peut-être, je ne sais pas. Non, peut-être pas. Non, peut-être ici, là. Non, je ne le retrouve pas. Bon, tant pis. Peut-être c'est après. Où est-ce qu'on est là ? Voilà, ce geste-là. On le retrouvera plusieurs fois au cours de la pièce. Et par moment, il est durci, je trouve. Là, le premier, là, le deuxième. Enfin, celui qui suit. C'est pas le même, pas tout à fait. Il est légèrement plus long, le deuxième.
Il est composé d'une autre partie. Donc, en fait, le compositeur, à la fois, il y a des gestes comme ça que je trouve, du point de vue de l'émotion, un peu méchant, entre guillemets, enfin, côté un peu... je ne sais quelle volaille un peu vindicative, mais en même temps, je peux aussi l'écouter complètement en oubliant totalement toute image et en étant juste sollicité du point de vue de ma mémoire. Ah oui, j'ai déjà reconnu ce phrasé-là. Ah oui, tiens, c'est le même, mais pas tout à fait. Et au moment où ça se produit, j'ai simplement le plaisir de reconnaître et de voir qu'il y a une différence. Si je réécoute, après, je peux m'amuser à prendre conscience davantage de cette différence, quoi, si vous voulez.
Il n'y a pas aussi, je trouve aussi c'est un jeu de cause à effet, enfin ça rejoint ce qui a été dit, quoi. Mais c'est qu'on oublie un peu, c'est un peu comme, je sais pas, on voit que le ballon qui tombe et on ne sait pas qu'il y avait quelqu'un qui tenait le ballon avant, en fait. Mmh. Et du coup, il y a un peu un jeu comme ça d'oublier
la causalité.
La cause, et de s'effacer, et vu que c'est presque fantomatique, enfin, il y a quelque chose comme ça, et du coup, enfin, je pense que l'écoute, elle se fait aussi là-dessus. Et de temps en temps, il y a un... enfin, moi, j'ai entendu presque un barrissement d'éléphant.
Oui, absolument.
Et il y a des choses comme ça. Et le mélange de tout ça, ça fait que... oui, il y a une espèce d'humour, quoi. Enfin,
Oui, et je trouve il y a un paradoxe dans cette musique. Il y a un paradoxe profond. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait son succès. C'est que on ne cesse d'y entendre une porte et on y entend plein d'autres choses. Et par moments, on n'y entend rien d'autre que ce que c'est. On y entend des éléphants qui barrissent en effet, des volailles peut-être, et puis par moments c'est juste des phrases mélodiques, et en même temps tout le long on n'oublie pas que c'est une porte qui grince. Et c'est peut-être la réussite de Pierre-Henri dans cette pièce, d'avoir réussi à, je dirais, à faire porter l'attention à la fois sur la chose et en même temps complètement sur autre chose que la chose. Voilà. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est un ballon. On est fasciné par le rebondissement du ballon et on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui le tient, on ne l'oublie pas qu'il tenait à un moment donné, mais c'est pas ça qu'on écoute, c'est pas là-dessus que se fonde l'écoute. Alors que vous avez des musiques anecdotiques, des musiques dans lesquelles il y a des éléments anecdotiques, à savoir qu'on reconnaît, et là, d'un seul coup, il y a une dimension de sémantique, une dimension de signification, d'image, volontairement. Pour moi, ce n'est pas du tout une musique anecdotique, ça. C'est une musique d'écriture, dans lequel il y a une anecdote, la cause qui est omniprésente mais qui s'oublie, alors que vous avez des musiques dans lesquelles, on va tâcher d'en trouver une, dans lesquelles il y a des phénomènes reconnaissables et qui ont valeur poétique, de signification. On reconnaît, je ne sais pas moi, un paysage par exemple. Tenez, je pense à ça, voilà.
On va écouter une pièce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elle est où ? Elle est, c'est laquelle ? Voilà, c'est celle-ci. Oui. Non. Voilà. Elle dure 4 minutes 30, on va peut-être pas écouter tout. Thank you.
Comment vous laisser entier. Ça vous plaît? Alors là, pour le coup, ça ne fonctionne pas du tout comme l'autre pièce. Parce que l'autre pièce, quelque part, le fait que ce soit une porte, au bout d'un moment, enfin, je dirais que ça n'apporte rien du point de vue poétique. À la rigueur, ça apporte quelque chose quant à une certaine. Un certain imaginaire gestuel. Tandis que là, qu'est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Qu'est-ce que vous avez reconnu?
Stade de foot.
Un stade de foot. T'es sûr que c'est du foot?
Ah, c'est des supporters.
Ah. Peut-être mieux un stade de foot quand même. Quoi d'autre?
Il y a des mouettes.
Des mouettes?
Des mouettes, il y a deux plonçons, deux sphères plonçons.
Des?
Des plongeons.
Des plongeons. Ah. Plouf. D'accord.
Des insectes.
Des insectes.
Grenouilles.
Comment?
Pas des grenouilles.
Des grenouilles, peut-être. Les grenouilles, on n'est pas complètement sûr. Les insectes non plus.
Ah, c'est des grenouilles aussi.
Ah oui, peut-être. Ah oui, les insectes aussi, quand même. Il y a les grillons. On appelle les grillons, oui, bien sûr. Ouais, ouais. On pourrait dire que c'est un paysage sonore, si vous voulez. Un paysage sonore assez réaliste. Qu'est-ce qui peut définir un paysage en musique? Comment vous diriez un paysage? Quelles sont les lois d'un paysage sonore en musique? Si vous aviez fabriqué vous-même un faux paysage sonore, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous insisteriez?
La spatialisation.
La spatialisation, quoi d'autre? Est-ce que vous pouvez faire... Pardon? Oui.
La profondeur aussi,
on va dire la spatialisation. Ouais. Il y a deux types de spatialisation, il y a le gauche-droite et puis la perspective. Donc on va dire que voilà, ça fait partie de ça, la profondeur en effet. Donc les choses loin, les choses proches. Et j'ai dit quoi d'ailleurs? J'ai dit les choses. Donc.
Bah
oui. Le pluriel, évidemment. C'est forcément pluriel un paysage. Vous ne faites pas un paysage avec un seul truc. C'est pas possible. Il faut forcément qu'il y ait plusieurs choses. Donc perspective et diversité, hein, d'accord, et répartition de cette diversité dans justement un espace. Ça ne peut pas se faire sans espace, un paysage. Il faut forcément qu'il y ait une sensation d'espace. Alors il y a des paysages qui sont réalistes, c'est un peu le cas là, encore que, on peut se discuter, est-ce qu'ils sont complètement réalistes, est-ce qu'ils sont pas... Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que c'est un paysage de rêve, non, plus qu'un paysage réel, enfin, je ne sais pas.
Si.
Un petit peu, hein, quand même. Je ne sais pas trop à quoi ça tient. D'ailleurs,
la fin, c'est un peu
cartoon. Comment?
La fin, c'est un peu cartoon.
La toute fin?
Oui, enfin, quand il y a une sorte de bruit de chat. Qui...
Ah oui, oui, quand il y a un bruit de chat. Bon, et donc, qu'est-ce qui s'oppose au paysage, là, justement, les bruits de chat en question? Est-ce que c'est uniquement le bruit de chat qui s'oppose au paysage? Il y a une espèce d'opposition franche, là, dans cette pièce. Entre...
L'interférence, ça.
Qu'est-ce que tu appelles l'interférence?
Cette espèce de petit crissement hyper aigu.
Oui, comment il arrive celui-là? Hein? Globalement, est-ce que vous avez l'impression que c'est une chose complètement continue?
C'est un larcène,
non? Je sais pas, je pense pas, mais peut-être. Par rapport à l'idée du continuum, est-ce que c'est complètement continu cette pièce?
Non, c'est des petits morceaux.
Est-ce qu'il y a des choses continues quand même?
Bah, ça fait un ensemble assez cohérent. Mais...
Oui. Mais quand tu dis des petits morceaux, donc il y a des petits morceaux en effet, et puis il y a des longs morceaux quand même. Non? Il y a des morceaux où on a le temps, ça se pose, ça dure assez longtemps, des morceaux de paysage. Et puis il y a des petits morceaux qui viennent comment, ces petits morceaux par rapport aux longs morceaux? Comment on pourrait dire qu'ils surgissent? Le chat en question, si tant est que ce soit un chat. Comment il surgit celui-là?
Comme ça.
Comme ça, c'est-à-dire? Ça veut dire quoi comme ça?
Il surgit.
Donc, il est imprévisible et il est d'une nature radicalement différente. Et aussi, d'ailleurs, je vous le fais remarquer parce que vous n'avez pas le temps de vous en rendre compte, mais dans un espace différent. Donc, quelque part, c'est comme si vous aviez une belle photo de paysage, puis vous avez déchiré. Et vous avez laissé les espaces ouverts, et derrière, il y a une autre photo dans laquelle il y a, dans un tout petit espace, une autre photo dans laquelle vous voyez, je ne sais pas moi, un fragment de visage, par exemple, ou un fragment d'un autre paysage avec une autre profondeur. Donc on pourrait dire que c'est une écriture avec des trous, des trouées, ou des surgissements qui sont comme des déchirures, qui sont comme des... C'est assez violent, d'ailleurs, les déchirures-là. Il y a des choses qui sont un peu dures, hein, qui ont...
Allez, si je vous fais écouter... Encore un petit bout, là, comme ça, de certaines de ces déchirures, par exemple celle-ci, je pense que c'en est une. Voilà.
Il y a ce son aigu, hop, terminé. Donc il y a des espèces de motifs assez complexes, composés très très virulents, qui sont comme des trouées dans le paysage, qui lui-même est un paysage assez étrange, parce que quand, vous imaginez un match de foot en pleine nuit avec des grillons, et puis des grenouilles, et puis des oiseaux un peu exotiques. Tout ça est assez surréaliste, au fond, comme paysage. Hein. C'est un rapprochement très improbable. Et donc, il y a ces déchirures, arrachements, par exemple. C'est vraiment des éléments de nature très différente. Effectivement, il y a des plongeons, pas comme ça. Il y a des choses qu'on ne reconnaît pas, des choses qu'on reconnaît. C'est très vif et ça s'oppose évidemment au côté très allongé des paysages sonores où chaque chose prend le temps de durer, s'installe dans une espèce de vision un peu panorama de quelque chose. Et puis il y a ce match de foot, ce fameux match de foot. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on entend? Qu'est-ce que vous entendez?
C'est très lointain.
C'est lointain, et tu disais, ce sont des supporters. Alors, on entend quoi exactement? Ils font quoi, les supporters?
Ils crient.
Ils crient. Mais pourquoi ils crient?
Parce
qu'il y a une action. Ah, autrement dit, vous entendez des supporters, que vous ne voyez pas, qui eux-mêmes regardent quelque chose que vous ne voyez pas non plus. Donc, il y a une espèce d'acousmatique dans l'acousmatique. Hein. Acousmatique veut dire écouter sans voir. Donc le compositeur, là, vous fait entendre quelque chose et vous entendez bien que ce que vous entendez est la conséquence d'autres choses que vous ne entendez pas, que vous ne voyez pas, mais que eux voient. Donc on est spectateur de spectateur. On est auditeur de spectateur, en quelque sorte. C'est assez étrange, cette chose-là. Ça installe une poésie dans ce morceau qui est que ce qui est donné à entendre est complexe, n'est pas simplement premier degré. Ce qui est donné à entendre renvoie à d'autres choses, qu'on peut appeler des images, des indices, des référents, etc. Et c'est une chose que moi j'aime, c'est une pièce que j'aime beaucoup justement à cause de ça. Les choses qui ont l'air simples sont complexes. Par exemple, les fragments d'arrachement comme ça.
Je vous fais réécouter encore celui-là. Vous voyez comme il est complexe. Parce qu'il y a ce son aigu là, que tu. T'as celui-là dont tu disais que c'est peut-être un larcène, je pense que c'est ça que tu voulais dire.
Peut-être que ce son-là, c'est celui-là que tu désignais. Il apparaît pas au moment même où il y a la rupture, où il y a le premier phénomène. Par ailleurs, l'ensemble du motif constitué du premier son, du sifflement aigu, et puis du deuxième phénomène animal, tout ça n'est absolument pas synchrone sur le plan de l'image. Il y a des choses à gauche, des choses à droite, et c'est pas les mêmes. Il n'y a pas la même chose à gauche et à droite, alors que le paysage sonore avec les grillons, les oiseaux et la foule, là, c'est une belle image stéréophonique. Donc il y a une espèce de cassure aussi de ce point de vue-là, du point de vue de l'espace, de la rampe, ce qu'on appelle la rampe stéréophonique. Et donc c'est une musicalité très très complexe.
Et si on regarde d'autres motifs un peu plus loin, j'en prends un autre ici. Voilà.
Il y a des éléments qui appartiennent au paysage
qui viennent juste après. Par exemple, les pop, 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 pop.
Ça appartient au paysage parce qu'on l'entend ailleurs dans le paysage,
mais au moment de l'effraction, parce qu'on peut
parler d'une musicalité d'effraction,
au moment de l'effraction, ça participe du motif de l'effraction lui-même.
Donc c'est très très ambigu. Il y a des éléments qui appartiennent au paysage qu'on retrouve dans les moments d'effraction, ce qui crée un trouble où on ne sait plus finalement qui appartient à quel monde. Hein, vous voyez ce que je veux dire? D'où une musicalité apparemment très simple et en réalité très complexe, très savante, avec des réseaux de relations beaucoup plus riches qu'il n'y paraît à première écoute.
Je reprends un autre extrait comme ça, hein, au hasard.
Alors, ça c'est autre chose. Confrontation d'éléments plus minéraux, mais en même temps un mouvement organique qui n'ont rien à voir avec des animaux, mais qui dans leur mouvement ont quelque chose de très organique, comme si c'était des animaux. Hein.
Et ça a à voir peut-être avec les plongeons, les fameux plongeons dont tu parlais.
Je ne sais pas ton prénom.
Claire.
Voilà. Je vais prendre un autre extrait. Là, c'est merveilleux, on l'a déjà écouté celui-là.
On s'aperçoit que le sifflement, le fameux Larsen dont parlait Morgan, il est là, mais il est là de manière beaucoup plus courte. Il ne s'installe pas dans une durée, il est juste comme une espèce de rappel au point qu'on se demande s'il est là même. C'est très savant comme manière d'écrire. Par ailleurs, c'est du montage, mais pas complètement. Les choses sont aussi enfondues, enchaînées les unes dans les autres. Et voilà, donc je trouve que voilà une musique dans laquelle le fait de reconnaître a une signification poétique. C'est une musique qui dit des choses, qui vous propose de la poésie. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, ça après c'est autre chose. Mais on voit bien que le fait de reconnaître là est un degré de pertinence. Parce que, je ne sais pas quelle image vous faites, c'est une sorte de rêverie, il y a un côté un peu onirique là-dedans. On pourrait imaginer un truc à la Buñuel, je trouve, une espèce de match de foot complètement, ou de rugby d'ailleurs, peu importe, complètement improbable dans un lieu qui ne devrait pas y être, comme c'est souvent le cas dans certaines imageries surréalistes. Vous avez, je pense à un film de Buñuel où on a une autruche qui passe dans une chambre, par exemple. Je crois que c'est dans Le Charme discret de la bourgeoisie. Et il y a deux personnages qui sont dans un lit, et puis il y a le décor de la chambre, et il y a une autruche qui passe, qui est évidemment issue d'un mouvement, d'un monde animal, sauvage, forestier, je ne sais pas, exotique. Et d'un seul coup, dans cette chambre un peu années 60, il y a cette autruche qui passe. Enfin, bon, voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors évidemment, ça nous rapproche d'une musicalité complètement autre qui serait celle de la radio. Mais c'est pas du tout de la radio, ça. Pourquoi c'est pas de la radio? Parce que les valeurs sur lesquelles ça se porte attention, ce ne sont pas uniquement la signification, bien entendu. C'est aussi le phrasé, c'est aussi les rapports de hauteur, les rapports de présence, toutes les valeurs propres à la musique. Or, l'art acousmatique, si tant est qu'on appelle par cela l'art, on va dire, sonore et musical de composition sur support, c'est un art qui recouvre, qui a une palette d'expressivité très très large, qui va du purement musical au purement radiophonique, avec tous les intermédiaires possibles. Et ça ne vous étonnera guère, parce qu'aujourd'hui, on est dans des développements d'activité artistique qui efface un peu les frontières. Hein. Il y a des fois, on va voir une pièce de théâtre et puis c'est quasiment de la chorégraphie. Il y a des fois, on va voir de la chorégraphie et puis c'est quasiment du théâtre. Il y a des fois, on va voir du théâtre et puis c'est de la musique. Ça s'appelle du théâtre musical. Puis il y a des fois, on va voir de la musique et puis c'est quand même très théâtral. Vous voyez, on va voir une expo, mais en fait, s'il y a des personnages vivants qui font des performances comme s'ils étaient des objets. On va voir, une performance, justement, et puis il y a des objets fixes qui sont comme une exposition. Bref, on est aujourd'hui dans des expressions artistiques, vous le savez certainement, puisque vous-même, je pense, pour ce que j'ai vu l'année dernière des travaux, il y avait des choses qui étaient très, très, très ambiguës, très intermédiaires entre une exposition, du son, éventuellement une performance. Enfin, c'était très, très mélangé, et donc c'est intéressant en tant que tel. Donc, au niveau de la musique aussi, et de la radio aussi, il y a des arts qui sont très intermédiaires entre la musique et la radio.
Je vais vous faire entendre ici un extrait de quelque chose que j'aime beaucoup aussi, qui est un inédit d'ailleurs. Que vous
Philippe, qui est l'auteur?
Là, c'est François Bell. C'est un extrait d'une grande pièce qui s'appelle L'expérience acoustique. François Bell, B-A-Y-L-E, qui a été lui-même directeur du groupe de recherche musicale pendant quelques années, assez longtemps, et qui a composé entre 71 et 73 une série de pièces qui ont formé un grand ensemble qui dure à peu près 2 heures, qui s'appelle L'expérience acoustique. Et là, c'est dans le grand volume 2, ça s'appelle Le match nul. Voilà.
Je vous fais entendre donc un extrait de quelque chose, je ne vous dis pas tout de suite ce sera amusant, et c'est un inédit, donc vous ne l'entendrez nulle part ailleurs, sauf peut-être d'ici quelques années. C'est un cadeau de l'auteur lui-même à votre serviteur. Je prends complètement au hasard. En plein dedans.
Le dit Chadrieux, chef-lieu, Chadrieux, Chadrieux, ville, le mètre 18. Nous sommes au bout du lac du Bourget. La route maintenant s'en écarte, quitte aussi la voie ferrée. Virage à gauche.
Il serait donc passé par Belay, non?
Virage à gauche, vers Belay. 17h20.
PM, gare.
Les trains de voyageurs ne passent plus à Belay. Seuls, à l'époque des moissons, quelques trains seraient alliés.
Kilomètre 38.
Avril 1992, mardi. Temps gris bleu, doux. Forêt, grand champ, belle route. Impression de fermette transformée en résidence secondaire.
Périlleux.
Le tour de froid ?
Un peu d'animation près de la boulangerie.
Ça fait.
Une jeune femme.
3 ans, non ?
Pousse un landau.
Dans une voiture décapotable, il y avait monsieur Minoui, celui qui joue du violon.
Se souvient.
Et puis il y a monsieur Drucker qui s'est arrêté là-devant. Si, on s'en souvient bien. C'était même bien marrant parce qu'ils chantaient tous en passant. C'était. Il n'y a pas de compétition, quoi. Ils sont passés là en s'amusant. Quoi.
Kilomètre 48.
Pourquoi on fait de la potage ?
Oui.
Bien.
Attention aux chiens. Nous quittons l'itinéraire de quelques mètres. Vieux toit de tuiles sombres, frangé d'une haie d'arbre. Une dame à cheveux roses, élégante et maladive, sur le seuil entrebâillé.
Bon, on est loin, calme.
Je retrouve là une impression que j'ai eue à chaque fois que j'ai écouté ces ouvrages, à savoir, pendant le premier temps de l'écoute, pendant, je dirais, la première minute de l'écoute, de ne absolument rien comprendre, de ne pas savoir où est-ce qu'on m'embarquait, qu'est-ce que c'était que cette histoire. Et à chaque fois que je le réécoute, et que je prends un extrait de quoi, 30 secondes, une minute, j'ai la même sensation. Alors moi, je connais l'histoire, enfin l'histoire, l'objectif, et puis si vous l'écoutiez dans la durée, vous le comprendriez tout de suite, évidemment. Enfin, tout de suite, non. Justement, pas tout de suite. Ça, je trouve merveilleux dans ces pièces-là, c'est que pendant un certain temps, ça a l'air d'être un foutoir pas possible, avec plein de gens réunis, plein de documents, plein de trucs, qui fonctionnent pour moi d'une manière d'ailleurs très musicale. On va le regarder un petit peu. Et puis, au bout d'un certain temps, ça s'éclaire. Plus on avance dans la pièce, plus la chose se. On commence à comprendre, si vous voulez, comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est une pièce qui a une magie incroyable. Alors, il s'agit de l'un des 25 épisodes du Tour de France 1989 de Vincent Lavenue, Dossard 451, de Yann Parentoen. Il s'agit de 25 émissions d'un quart d'heure qui ont été conçues pendant plusieurs années et qui sont passées à France Culture en août 89, ça devait être 91, je crois, et qui n'ont jamais été éditées et qui sont des pures merveilles. Yann Parentoen, que vous connaissez peut-être de réputation, qui est un homme de radio, musicien malgré lui, je dis malgré lui parce qu'il ne se préoccupait absolument pas de musique, il n'en parlait pas, et il a fini par en parler un peu parce qu'il a rencontré des musiciens qui se sont intéressés à son travail, mais à l'origine ce n'est pas quelqu'un qui s'intéressait à la musique, mais qui était extrêmement mélomane, avec une qualité d'écoute ahurissante, de phrasé, des rapports de rythme, de différenciation de nature des phénomènes. Comme vous avez peut-être pu le constater, là, c'est quand même très frappant à quel point, même si on ne comprend rien, ça, ça marche, quoi. C'est une espèce de d'enchaînement des choses avec des rythmes, avec des ruptures, d'espace, de profondeur, des genres, la poésie des voix aussi. C'est incroyable la variété des voix qu'il y a là-dedans. Alors, je peux vous raconter en quelques mots le dispositif, parce qu'il est intéressant. Si vous qui travaillez sur des projets, peut-être pour certains radiophoniques, ça peut vraiment vous intéresser. Voilà comment il a procédé. Yann était quelqu'un qui aimait beaucoup le cyclisme. Il adorait le cyclisme, il adorait le Tour de France, pas forcément c'est une vraie passion, si vous voulez, quelque chose de vraiment profond en lui. Donc il décide de faire quelque chose autour de ce Tour de France. Et puis ce qui l'intéresse, c'est pas d'aller en tant qu'homme de radio avec l'équipe de Radio France sur les motos et les voitures, c'est pas évidemment pas ça qui l'intéresse, c'est tout un ensemble de choses, ce que le Tour de France est à la fois comme exploit sportif, comme moment dans une société, comme partage, comme véhicule de plein de choses, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un coureur, Dossard 451, que personne ne connaît, Vincent Lavenu. Or, le Tour de France est une chose épouvantable pour les coureurs parce que vous avez quatre hyper célèbres pour des centaines de mecs qui sont des très très grands athlètes et dont personne ne parle jamais et qu'on oublie absolument, dont Vincent Lavenu, très grand champion, mais que personne ne connaît évidemment. Donc il demande à Vincent Lavenu s'il est d'accord pour le suivre pendant le Tour de France. Alors, il fait d'abord un premier voyage, attendez, laissez-moi réfléchir, il fait un premier voyage avant le Tour de France pour aller rencontrer sur les lieux où le Tour de France va passer des gens, boulangères, postières, pompiers, policiers, artisans, et il leur dit, voilà, je fais une émission sur le Tour de France, il enregistre les rencontres, est-ce que vous voulez bien m'envoyer une carte postale pour me dire si vous allez voir passer le Tour de France 1989 et si vous repérez Vincent Lavenu d'Ossard 451. Donc première étape, rencontre avec des gens partout sur le terrain. Il met presque un an pour faire ça. Avant, enfin pas un an, parce qu'il faut qu'il ait le détail du parcours. Donc c'est avant le Tour de France. Bon. Le Tour de France a lieu, il le suit, mais de manière personnelle. C'est-à-dire il n'est pas avec l'équipe technique. Il est sur les bords, il prend sa voiture avec sa compagne, etc. Et puis il enregistre les coureurs qui passent, etc. Et puis il revoit des gens. Comment ça se passe? Il revoit des gens à qui il a demandé... Oui, c'est ça. Donc, il enregistre de nouveau des rencontres avec des gens à qui il a demandé de lui écrire une carte postale. Ils ne l'ont pas encore fait, donc il y a une deuxième rencontre. Il enregistre plein de voix différentes. Ensuite, il revient à Paris. Il reçoit des lettres, des cartes postales. Il retourne sur les lieux du Tour de France en demandant aux gens, avec leurs cartes postales, « Vous m'avez écrit ça, vous pouvez me la lire ?» Il fait lire les cartes postales à des gens. Donc les gens, non seulement la carte postale est lue parfois par certaines personnes, mais elle est lue par eux-mêmes. Ah oui, j'ai écrit ça. Ah oui, je me rappelle, j'étais devant la boulangerie. Ah oui, il faisait mauvais jour là, vous savez. Donc discours de distance par rapport au premier écrit, si vous voulez. Premier écrit, ah oui, on est mardi 21 juillet 1989. Le Tour de France arrive, il y a du monde, etc. C'est très très bien. Deuxième étape. « Ah, j'ai écrit mardi 21... » Je ne suis pas sûr qu'on était à mardi. « Le Tour de France... » »« Ah oui, c'est vrai, il faisait beau jour, là, je me souviens. »« Ah oui, j'ai écrit ça, c'est un peu idiot, j'aurais pu écrire autre chose. » Vous voyez, donc, une espèce d'enregistrement d'une deuxième étape sur la lecture de la carte postale. Par ailleurs, il a demandé à Vincent Lavenu de tenir un journal tout au long de son truc. Donc, tous les jours, Vincent Lavenu écrit des choses sur un cahier. Et puis, ensuite, en studio, il enregistre Vincent Lavenu lire les choses. Par ailleurs, il fait tout le premier trajet et le deuxième trajet, quand il revoit les gens après le Tour de France, avec sa compagne, sa collaboratrice, qui elle aussi tient un journal. Un journal où elles disent ce qu'ils font, qui ils rencontrent, où ils vont, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a, en définitive, un dispositif qui fabrique, une palette d'intentionnalité vocale extrêmement variés, entre les gens qui s'expriment spontanément, les gens qui lisent quelque chose qu'ils ont écrit, les gens qui commentent ce qu'ils ont écrit après l'avoir lu. C'est assez étonnant, ça. Et puis les interviews spontanées au cours même de la circulation. Les enregistrements de Vincent Lavenu lui-même qui lit son journal en studio et qui commente ce qui se passait. Les commentaires de sa collaboratrice, avec toujours, très proustien, ça, une énonciation des noms, chez Proust, il y a ça beaucoup, les noms de villages, les noms de pays. D'ailleurs, il y a un chapitre entier de la recherche qui s'appelle Noms de pays, qui est très très beau. Et donc, on entend là-dedans énormément de noms de pays, de noms de villages, y compris aussi avec des réflexions météorologiques. Et d'ailleurs, très très souvent, sa compagne, il l'enregistre et donc elle dit à un moment donné vent. Elle dit pluie, et à chaque fois sur ce mot-là, il y a de la réverbération. Il faut que je trouve les endroits. C'est très très joli. Réverbération complètement artificielle, fantaisie, arbitraire de compositeur, complètement de compositeur, qui fait que le mot vent, d'un seul coup, toc, il est réverbéré, le mot pluie est réverbéré et pas le reste. Et donc, comme vous avez pu le constater, il y a une grande variété d'intentionnalité vocale, si vous voulez, et liée à tous ces dispositifs.
Il faudrait que je vous trouve des passages. Je peux peut-être vous en trouver, où on entend Vincent Lavenue qui lit lui-même son journal. Je vais essayer par là.
Le Tour de la France 1989.
Ça, c'est l'annonce.
Oui. De Vincent Lavenue. Dossard 157.
157, excusez-moi, je me suis.
Sur la route. Claudio Vanetti vient par Antoine.
Ça monte déjà. Donc pour eux, ça descend enfin. Trois hommes dans un virage.
C'est vrai, là, pas si, clairement.
Kilomètre 104.
Oh, joli.
Quand je tire, on s'arrête juste là-dessus. Vous voyez le rythme d'enchaînement, c'est merveilleux. Alors, c'est cassé. C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est de la radio. Il n'y a pas de doute, c'est de la radio, mais c'est complètement musical, quoi.
Trois hommes dans un virage.
C'est vrai, là, pas si, clairement.
Kilomètre 104.
Oh, joli.
Vous voyez, avec les voix qui ont des accents, celles qui n'ont pas d'accent, et puis cette différence d'intonation entre Anne Carvalho qui dit kilomètre 104, Claude Giovanetti qui dit la première phrase, je crois que c'est elle.
Trois hommes dans un virage.
Ça, c'est Claude Giovanetti.
La bassine, clairement.
Kilomètre 104.
Anne Carvalho.
Oh, je l'ai.
Et tous les accents, cette espèce de poésie comme ça, de présence humaine. Voilà, alors je trouve que c'est un dispositif intéressant, l'idée de revenir sur ce qui est écrit, de faire lire à des gens des choses qu'ils ont écrites. Il y a quelqu'un qui a fait ça aussi, c'est Denis Dufour, dans une pièce qui s'appelle La messe à l'usage des vieillards, dont j'avais analysé un mouvement l'année passée, où il demande à des personnes âgées d'écrire des choses et ensuite de les relire. D'où une espèce de mise à distance de ce qui est fait. Avec des enfants, c'est très intéressant de faire ça. Par exemple, des jeunes enfants, vous leur demandez d'écrire des choses. Et d'une part, et ensuite de le lire. Ou alors, par exemple, vous interviewez un enfant, vous décryptez l'interview, qui est donc de l'oralité, et vous donnez le texte à lire. Ça veut dire que l'oralité, wesh mon gars, je sais pas quoi, il faut qu'il la lise. Donc du coup, mise à distance de tout ce qui fait la spécificité d'une expression orale, spontanée, un peu approximative, rapide, vivante, lui, donc du coup, le personnage exprime des choses par cette mise à distance. On voit s'il est encore en accord avec son oralité ou si au contraire il a pris de la distance. Bon, là c'est du travail radiophonique, si vous voulez, dans lequel le dispositif est là pour fabriquer des choses, pour fabriquer une palette d'intonation, de qualité vocale, de qualité de présence, etc. quoi. Bon, donc ça c'était l'autre bord, le bord où on arrive à quelque chose qui peut être musical, mais dont la préoccupation principale, et c'est ça qui est très étonnant chez Yann Parentoen, c'est qu'il le dit lui-même, la préoccupation principale, c'est le véhicule d'une information. C'est le véhicule d'une signification. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de, sans avoir jamais lâché ça, d'avoir pu fabriquer des projets, des émissions qui sont à ce point si musicales dans leur fonctionnement, quoi. Bon, je ne sais pas comment vous ressentez ça... D'ailleurs, là, le premier écoute qu'on a fait, est-ce que vous aviez compris qu'il s'agissait de tout ça Non, vous n'avez rien compris. Ah oui, à un moment donné. Mais qui dit quoi? Pourquoi il le dit? Tout ça, au début, on ne sait pas du tout. Quoi. Et c'est moi, à chaque fois que j'écoute, dès le début, je suis complètement largué. Et c'est seulement au bout d'une minute ou deux que je commence à comprendre. Et alors après, ça devient lumineux. On comprend complètement comment tout ça est foutu. Quoi. Et il y a 25 émissions d'un quart d'heure, donc c'est très très long. Ça fait combien d'heures, ça? 25, 4... Il y en a 4 par heure. 4 fois 6, 24, ça fait 6 heures un quart. 6 heures un quart d'émission. C'est un énorme travail.
C'est hyper bien foutu.
C'est très très bien foutu.
Ça fait école.
Oui, oui.
Ça fait école.
Oui, oui, oui. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que des émissions d'un quart d'heure, quand on fait de la radio, moi j'en ai fait de la radio, une émission d'un quart d'heure, c'est un enfer. Parce que ça veut dire que vous pouvez laisser personne dire oui, peut-être. Non, il faut tout tailler, resserrer. Et quand vous écoutez ça, on a l'impression que les gens prennent leur temps. C'est ça qui est incroyable. Et ça tient à quoi? Ça tient au fait qu'ils laissent à certains moments, les gens prennent vraiment leur temps. Et puis par contre, il y a des articulations extrêmement rapides. Ce qui fait qu'on est confronté à quelque chose qui est à la fois très tranquille dans son débit et en même temps très très articulé, très véloce dans sa manière de passer d'une chose à l'autre. Et ça, c'est vraiment tout ça avec une espèce de naturel, ça n'a pas du tout l'air précipité.
Une polyphonie très rapide, ouais. de personnages, d'apparitions.
Oui, ouais, 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 absolument.
Il y a des sens croisés comme ça.
Ouais, ouais, c'est très très étonnant. Ouais.
Yann Parent-Cohen était un monument en ouais. culture et certaines de ses œuvres ont été éditées.
Oui, oui, il y en a pas mal.
On entend vraiment que cœur aura
cœur. Absolument, oui. Il y a Lulu, il y a le phare des Roches d'Ouvres, il y a Les Frais, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plusieurs.
Jamova a édité des choses, ouais, et puis il y a des transcriptures. Il avait un statut, je crois, très à part, parce qu'il prenait le temps qu'il fallait pour faire ses pièces, comme on peut le voir. Enfin,
Alors, ce qui est très étrange et en même temps très intéressant, justement, c'est que, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que peut-être vous n'êtes pas. Enfin, j'en sais rien, je ne connais pas, mais je me dis que vous n'avez peut-être pas une préoccupation originairement musicienne ou musicale, que vous avez des projets artistiques qui englobent une partie de préoccupations sur le son, éventuellement sur la musique, mais que peut-être ça n'était pas, le point d'origine de vos démarches. En tout cas, l'année dernière, j'avais rencontré des gens chez qui ça me semblait un petit peu comme ça. Et donc, je trouve que c'est très intéressant d'entendre des bouts de cela, justement pour ça. Parce que Parent-Cohen n'était pas quelqu'un pour qui l'essentiel était la musique. La musique venait avec. Et il avait ce sens incroyable, un sens musical, un sens musicien. Mais il disait, moi, c'est la radio qui m'intéresse. C'est-à-dire ce que je raconte, ce que les gens disent. L'humanité, les voix, les plans, les loin, les proches, tout ça. Et donc finalement, il rejoint des préoccupations musicales sans le vouloir. Donc c'était très intéressant, moi j'étais copain avec lui et nos entretiens étaient très très troublants pour moi au début notamment parce que j'avais tout le temps envie de lui dire « Mais enfin, prends conscience que tu fais de la musique !» Et non, il ne voulait pas prendre conscience, il disait « Moi je fais de la radio !» Il m'a fallu du temps pour admettre qu'il fallait pas que je le pousse forcément à prendre conscience que c'était aussi de la musique. Et en fait, c'est venu progressivement parce qu'il a fini par rencontrer d'autres gens, d'autres musiciens. Et comme tout le monde lui faisait remarquer que c'était quand même très musical, il en a pris conscience, mais il ne l'a jamais revendiqué.
Mais il se disait sculpteur de son, oui. Il avait appelé ce terme.
Absolument, ouais. Parce que aussi tailleur de son, aussi parce que son père était tailleur de pierre, ouais. Était sculpteur de pierre. Donc il y a une filiation entre son père et lui de ce point de vue-là, absolument. Ouais.
Et il y a un rapport extraordinaire entre la prise du temps de vie. Et du temps d'écriture.
Absolument.
Ça, c'est la radio.
Ouais.
C'est
extraordinaire. Et c'est une radio qui a le mérite à la fois d'être très rapide et en même temps de respecter le temps naturel des gens qui l'interviewent. Et ça, c'est très, très étonnant. Très étonnant. Parce que c'est très difficile de. C'est un équilibre qui est très fragile, ça, je trouve. Bon. Ah. On proteste.
Quelle heure il est ?
5h10. Je peux encore vous faire écouter des petites choses ? Petit moment ?
C'est comme tu le sens.
Petit quart d'heure, moi ça va, je peux continuer jusqu'à minuit.
je regarde ce que je peux vous faire encore. Qui peut vous alimenter ? Alors. Ah oui, tiens. Peut-être c'est bien ça. Je me demande si c'est pas un peu long. Alors, oui, on va pas tout écouter. Hein. Alors, il s'agit d'une pièce religieuse, d'un requiem, d'un compositeur qui s'appelle Michel Chion, dont vous avez certainement entendu parler, qui est à la fois un penseur de la musique, un penseur de l'image, c'est quelqu'un qui fait du film aussi, qui s'est beaucoup intéressé au cinéma, et notamment aussi au son et à la voix au cinéma. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La voix au cinéma », un autre qui s'appelle « Le son au cinéma », et il a écrit un livre dont je vous recommande la lecture, qui est un ouvrage absolument magnifique, qui s'appelle « Le promeneur écoutant », qui est un ouvrage, je dirais, pour quelqu'un qui a envie de rêver sur l'écoute. Voilà, qui n'est pas du tout un ouvrage d'analyse, hein. C'est un ouvrage d'une espèce de proposition extrêmement ouverte et poétique sur l'écoute. « Le promeneur écoutant », c'est vraiment magnifique. Alors il a fait en 1973 une œuvre qui s'appelle « Requiem »,
qui est une œuvre violente, blasphématoire, hystérique et en même temps très écrite, magnifique, absolument magnifique, moi je l'aime beaucoup, qui par son excès à la fois, je dirais, de son outrance, retrouve une forme de réelle religiosité, c'est-à-dire là où dans l'excès de, je dirais, dans l'excès de décalage par rapport à la religiosité retrouve une forme de religiosité. J'aime bien cette idée-là. Bon, dans les temps qui courent aujourd'hui, ce serait peut-être pas forcément bien reçu par tout le monde, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà le mouvement qui s'appelle Liberame. On va peut-être pas l'écouter entier, mais au moins un bon bout.
Délivrez-les de la gueule du lion, de peur que le Tartare ne les dévore, qu'elles ne tombent dans les ténèbres. mais que votre porte-étendard, Saint-Michel, les conduise à la sainte lumière que jadis vous avez promise à Abraham et à sa descendance. Nous vous offrons victimes et prières de louange. Vous grillez-les pour les âmes dont nous rappelons aujourd'hui le souvenir et faites-les passer, Seigneur, de la mort à la vie que vous avez promise à Abraham et à sa descendance.
Bon, le silence, là, je ne peux pas arrêter, je ne vais pas vous faire entendre ce mouvement. C'est peut-être pas bien d'écouter ce mouvement-là comme ça, parce qu'il renvoie à des tas d'autres choses qu'on a entendues et qu'on entendra, donc on a une impression certainement d'une chose un peu chaotique. Alors qu'en fait c'est une pièce qui donne ce sentiment en effet de certains chaos, mais en même temps qui est très organisée, et donc il y a des tas de choses qu'on entend là, qu'on a déjà entendues, dont on ressent la récurrence, si vous voulez. Comment vous réagissez à ça? T'arrives à en lire, je sais pas.
C'est très étrange cette coupure à un moment avec la prière. Enfin, là, je ne sais pas ce que c'est la prière, je ne sais pas comment c'est.
Oui, une sorte de prière, oui. Oui, c'est très étrange. Ouais.
Ça, c'est quoi, hein,
ouais. Cela dit, dans le reste de ce qui précède, on a eu quelques coupures qui sont comme un avant-goût de celle-là, quand même. Hein. Il y a des moments où il y a des trous, comme ça, plutôt que ça reprend, puis de nouveau encore un trou, puis ça reprend. C'est-à-dire que quelque part. Là, pour le coup, c'est une rupture vraiment colossale, en effet.
Et la manière dont il parle, en fait, on a l'impression qu'il n'est pas très sincère.
Oui, absolument.
Qu'il ignore et qu'il dit un truc, oui.
À distance. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. On retrouve un peu la même idée dont je parlais chez Parentoen, c'est-à-dire qu'il y a une forme de distance par le fait, ouais, de lire quelque chose, sauf que là, la distance, elle est d'ordre, on peut l'interpréter comme on veut, mais il le lit comme il lirait une recette de cuisine, d'une certaine façon, un côté comme ça, quoi. C'est volontaire, c'est évidemment volontaire, oui, bien sûr.
Bah, oui.
Et d'ailleurs, faut que je vous fasse entendre ça, ça va vous faire rire. Au début, il enregistre un enfant qui lit le texte, sauf que le texte en question est écrit en ancien français, donc vous savez, en ancien français, les S étaient écrits comme un F. Donc l'enfant qui le lit ne le sait pas, donc ça donne ça.
Cum sanctis tuis inter, quia pius es?
Ah, c'était pas là.
Quia pius es? Et lux perpetua luce a Deis, cum sanctis tuis in eterno. Quia pius es? Quia pius es?
Se tenga luce a Deis, Domine, cum sanctis tuis in eterno. Quia pius es? Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua lucea teis. Cum sanctis tuis in eterno, quia pius es?
Lux eterna lucea teis. Lux
eterna.
Je me suis trompé, ça n'avait rien à voir avec le moment dont je vous ai parlé. Mais comme je ne voulais pas couper, je l'ai laissé. Enfin, on retrouve la même idée de distance. Hein. On voit bien, là, il lit d'une manière complètement décalée. En plus, avec cette voix légèrement transformée, vraisemblablement par variation de vitesse, qui donne un sentiment comme s'il bâillait. Et donc, à la fin, il bâille pour de vrai, d'ailleurs. On l'entend très, très bien. Voilà. Bon. Une espèce de... Et alors, pour le coup, là, la musique aussi est très en décalage, puisqu'il s'agit... du Lux Aeternam, la lumière éternelle, et on a cette espèce de musique de pacotille, un peu, avec des sons entre jouets d'enfants et musiquettes de boîte à musique, enfin très, très étrange, un peu ramollo, comme si elle était trempée dans la flotte et qu'elle dégoulinait, comme ça, il y a un côté pas très solide en quelque sorte. Donc c'est vraiment l'inverse d'une parole, je dirais, affirmée, posée, avec une musique qui entoure, qui serait elle aussi posée, qui porterait l'intention. Non, c'est complètement l'inverse. C'est une musique fragile, distanciée, avec une lecture fragile, distanciée aussi. Donc on voit bien, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est blasphématoire, entre guillemets, par rapport à la liturgie, quoi, par rapport au rituel. En même temps, ça retrouve par ses choix et par moments son outrance aussi. Vous avez vu dans le mouvement que le premier qu'on a écouté, il y a des moments très outranciers avec des sons un peu bizarres, moches, très sales, volontairement sales. Il y a une dimension comme ça un peu de violence qui fait que on est proche d'un rapport au sacré. D'ailleurs pour Michel Sion, la religion n'est pas du tout un sujet banal, hein. C'est un sujet très important, c'était une vraie question pour lui. Il a été agité par cette chose là pendant très longtemps. Il a lui-même, à un moment donné, été tenté par la carrière religieuse, quoi. C'est pas du tout un caprice superficiel, c'est vraiment quelque chose qui le concerne beaucoup.
Ça renvoie d'ailleurs à un artiste que tu citais tout à l'heure, qui est Louis Lumière.
Oui.
Et qui a vu dans Les fantômes de la liberté, on a exactement une petite approche de la religion.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Anarcho-guérique, si tu veux.
C'est d'ailleurs étonnant ce film Le fantôme de la liberté, qu'on ne voit plus, qui ne passe nulle part et qu'on a du mal à revoir, et qui est un film pour moi qui a été mal compris, mal reçu. Il a été perçu comme un film, je dirais, comique en quelque sorte. Il y a eu beaucoup d'échos qui le présentaient comme un film drôle, comique, alors que c'était un film pour moi qui fonctionnait exclusivement sur des principes d'onirisme. Et donc c'était complètement magique, parce que ça ne marchait que exactement comme ça marche dans les rêves, avec des logiques d'enchaînement, de métonymie, de métaphore, de remplacement, de substitution, etc. Des choses qui sont très, qu'on connaît bien et qui pour moi sont vraiment fascinantes. Vous avez vu ce film Le fantôme de la liberté?
Non.
Il l'a fait juste après Le charme discret de la bourgeoisie. C'est un très très beau film. Il y a une scène très très célèbre ici, une culte, qui est très bien d'ailleurs, qui est très intéressante. Les gens viennent à table et au lieu de se mettre à table, ils se mettent à table, il y a des bidets, ils sont aux chiottes. Donc ils sont autour d'une table aux chiottes. Et ils font ensemble, si vous voulez, ils sont aux toilettes ensemble. Et il y a un enfant qui est là qui dit « Maman, j'ai faim » et la mère lui dit « Mais maintenant, tu passes à table, tu passes à table. » Et donc il s'en va, il rentre dans un petit cabinet, il baffe un peu comme un fou et ensuite il revient s'asseoir sur les toilettes. Et ils sont tous autour des toilettes. Donc, voilà, alors évidemment, c'est drôle. En même temps, c'est passionnant, parce que c'est une substitution. On substitue quelque chose à une autre et on regarde ce que ça produit. Et dans les rêves, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Beaucoup.
Et la religion, c'est important.
Oui, la religion, pour Buñuel, c'est très important. Parce que,
ça, à la fois, confessé et magnifié aussi.
Magnifié, et puis c'était un objet de fascination, de frayeur pour tous les Espagnols, la religion, évidemment, dans toute leur histoire. C'est quand même là que l'Inquisition a sévi beaucoup. Voilà. Bon, si vous voulez, on peut s'arrêter là. Enfin, moi, je vous dis, hein, ça va.
Est-ce qu'il y a une vieille cirée, quoi, sur le...
Oui, je ne l'ai pas là.
Ah,
parce que j'ai amené que deux mouvements et je n'ai pas amené vite. Oui, il y a tous les mouvements du Requiem. Enfin, oui, presque l'essentiel des mouvements, je pense, peut-être. Je ne pense pas qu'il en manque. Et c'est édité en disque.
Il y a un CD et deux vinyles. De lignée d'origine, puis la réédité récemment dans notre label.
Ouais.
Moi, je ne l'ai pas sur mon disque ce jour-là, mais je l'ai annoncé.
Dies Irae, il est très beau. Dies Irae, sa gueule, comme ça, c'est magnifique. Très, très beau. Hein. Pourquoi tu t'intéresses à Dies Irae?
Parce que j'avais refait une performance sur le thème du Dies Irae.
Ah, oui. Ah, bah, il y a la messe à l'usage des vieillards de Denis Dufour aussi, les questions du Dies Irae. Je crois qu'il y a un Dies Irae,
j'ai regardé. Je te fais pas entendre parce que c'est trop long, mais je vais regarder s'il y en a. Et ça aussi, c'est en disque, la messe à l'usage des vieillards de Denis Dufour. Mons, Dufour, Santos. Non, il n'y a pas de Dies Irae. Kyrie, Gloria, Credo, Santos, Agnus. Il n'y a pas de Dies Irae.
Alors, demain, je vous rencontre pour écouter vos travaux. Juste, qui présente des choses parmi vous? Qui me fait entendre des choses? Oui, Simon.
C'est un peu tard.
Victor, oui, Morgane. Julie.
J'aurais pas grand chose à faire écouter, mais.
D'accord, c'est comment ton prénom ?
Marion.
Marion, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est tout ? 5 personnes ? Ok. C'est des choses audio ? Des choses à écouter ?
Oui.
Ouais. Quelle durée en gros ? Très vite comme ça, une ordre d'idée. Comment ?
5 minutes à 2 minutes.
Ah, d'accord. Okay.
Non, non, c'est pas forcément des coups, c'est à la fois l'exposé du projet.
Oui, 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 j'ai bien compris.
Et puis éventuellement des petits bouts, donc on peut calibrer quand on a tout.
Écoute, je pense, plus que.
Ouais.
J'aime bien quand
même. Bon, à vous de gérer la durée, après tout, c'est vrai que je tiens pas, absolument pas, mais c'était juste pour avoir un ordre d'idée, pour savoir combien, en gros, vous comptiez me faire écouter chacun. Mais bon, on a la matinée, donc ça va, on commence à quelle heure ?
9h. On va peut-être se dire un peu plus tôt, du coup.
Ah, moi je veux bien. Hein.
C'est vrai que. Ah non, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant la dernière fois.
Bon,
on
est sorti
de 9h à midi, 12, avec 20 minutes chacun.
On peut déjà aller au moins jusqu'à midi et demi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à midi et demi déjà ? Bon, on peut déjà. On peut aller jusqu'à 13h, absolument, aucun problème. Moi je veux dire. Bah, faisons ça, 9h-13h, oui. Ça va ? Comme ça, ça donne effectivement plus de temps, oui, je suis tout à fait d'accord. Et est-ce que vous pensez me faire entendre des choses ensemble ? Ou pas, me présenter les choses ensemble.
Ah, mais on passe pas un tour de rôle.
Oui, ben c'est ça que je veux savoir.
Collective.
Moi, personnellement, j'aime bien ensemble, parce que ce qu'on dit, les discussions qu'on a peuvent concerner chacun d'entre vous. Ah bon, d'accord.
Okay. Ah oui, l'endroit où tu étais venu, c'était un par un.
C'était un par un.
L'un n'est pas encore là, mais c'est au choix, c'est comme.
Non, moi j'aime bien, sauf si vous avez un projet, je ne sais pas, un team qui fait que vous n'avez pas envie de le présenter aux autres. Ça, je ne sais pas, c'est possible.
Non, on apprend toujours de.
D'accord. Moi j'aime bien aussi, bien entendu. Mais cela dit, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont des projets quelquefois qu'ils ne veulent pas dévoiler. Bon.
Jusqu'à présent, c'était collectif.
D'accord. Okay. Et donc les écoutes, oui. Alors, juste une question encore. Les choses que vous allez me faire entendre, que vous allez me montrer, demandent des moyens techniques particuliers ?
Non, enfin, tout est là, c'est juste les enceintes.
Et d'accord. Tout est là, c'est votre ordi, donc il faut un câble avec la sortie de l'ordinateur. Il y a ce qu'il faut, je pense.
Ouais,
pour
ouais.
Tout le monde, ça va, c'est simple, on ne perdra pas de temps avec ça.
C'est
d'accord.
Ça.
Ok. Ouais,
moi, j'ai besoin d'une optophonie.
Avec 24 haut-parleurs. Et un pilotage numérique. Oui, d'accord, on va faire ça. Bah, peut-être alors, on va aller jusqu'à 23h demain, direct. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé.